et de son coût éventuel. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un deuxième type de sacrifice qui doit aussi faire partie de notre vie, car il ne sert pas à grand-chose d'apporter un sacrifice à Dieu qui vous coûte si Dieu n'y prend pas plaisir. D'accord, j'entends. Ouais, on veut pas payer, on ne veut pas que ça nous coûte si finalement ça ne sert à rien. D'accord? Et nous allons retourner dans l'Ancien Testament aujourd'hui pour comprendre quand et pourquoi Dieu n'apprécie pas un sacrifice de louange, aussi coûteux qu'il soit. D'accord? C'est important de le comprendre. Et la semaine dernière, nous étions tout au début de l'histoire du temple, qui était construit sur le terrain qui avait été vendu à David par... Ornan, un boucher, elle gagne les prix de première de la classe. Oui, donc Ornan a vendu son terrain à David. Et c'est sur ce lieu-là que... c'est ce lieu qui est devenu le centre de sacrifice, de l'adoration du peuple d'Israël. Et lors de... Parce que ce n'est pas David qui a construit le temple. Parce que David a un peu préparé ce qu'il fallait. Mais c'était son fils, c'était Salomon, qui avait actuellement construit le temple. Et au moment de l'inauguration de ce temple, il y a tout le peuple qui sont présents. Et Dieu, il confirme encore son désir de communier avec son peuple là, en envoyant le feu pour brûler le sacrifice. On a parlé un peu de ça la semaine dernière. Et il a rempli le lieu de sa présence, de sa gloire. Et c'était la manière par laquelle Dieu disait, oui, je suis bien là. Je suis bien là. Moi, je viens. Moi, j'occupe l'espace. Okay? L'espace avait été préparé. Puis Dieu, il vient, il occupe l'espace. Et en 2 Chroniques 6 et 7, on ne va pas les projeter, on voit la prière de Salomon et puis la réponse de Dieu. Pendant et après cette inauguration du lieu. On ne peut pas tout lire aujourd'hui. Vraiment, je vous encourage à le lire à la maison. C'est 2 chapitres et c'est magnifique. Je vais citer simplement 3 versets de ce passage pour vous montrer comment Dieu avait vécu cet événement. Parce qu'on sait que voilà, la gloire a rempli le lieu. Mais qu'est-ce que Dieu a ressenti à ce moment-là? Donc, en 2 Chroniques 7, verset 12, et puis on va passer tout de suite à 15 et 16. Dieu dit, il parle à Salomon, c'est pendant la nuit après cette journée, bon, cette période d'inauguration, et Dieu dit, je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Je choisis. Okay? Il y a un choix. On passe à 15 et 16. Désormais, c'est encore Dieu qui parle, désormais j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'aime bien ce « j'y aurai mon cœur ». J'y aurai mon cœur. Où est le cœur de Dieu? On cherche le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est sur le lieu de sacrifice et de communion. Si tu cherches le cœur de Dieu, c'est là. C'est là. Et si vous lisez ces 2 chapitres, vous verrez qu'il y a quand même un avertissement donné par Dieu. Cette promesse dépend de l'attachement à Dieu, du roi et de son peuple. Et c'est ce qui caractérise cet attachement qui nous intéresse aujourd'hui dans ce qu'on va voir sur le sacrifice. Qu'est-ce qui caractérise cet attachement à Dieu? Et donc, ce qu'on va faire, on va sauter 3 siècles plus tard. Okay? Donc là, on était à peu près à 1000 ans avant Jésus-Christ. Maintenant, on va avancer un peu et maintenant, on se trouve autour de 700 avant Jésus-Christ. Après le roi Salomon, le royaume se divise en 2. En fait, ça divise plutôt comme ça. Donc, il y a un royaume du Nord, un royaume du Sud. Je vous ai déjà parlé de ça dans le passé. Et les rois successifs de ces deux royaumes mènent le peuple, les deux peuples, vers l'adoration des dieux païens, malheureusement. Et pendant cette période, Dieu y charge plusieurs prophètes de donner des messages à son peuple. Il y a plusieurs livres dans l'Ancien Testament où nous pouvons lire ces messages-là. C'est toujours les livres que vous avez du mal à trouver. On va dire, ouais, on va regarder en Osée. Et tout le monde fait Osée. Page de contenu. Et il y a beaucoup de, livres qui, pour la plupart, qui sont assez courts. Mais leur message est très, très percutant. Très percutant. Et parfois, pendant cette période autour de ces 300 ans, pardon, il y avait des prophètes qui parlaient et parfois, il y avait les rois qui écoutaient. Je dis parfois parce que c'était plus le cas qu'ils n'écoutaient pas. Mais de temps en temps, il y avait des réveils. Il y avait des moments où le roi dit « Attends, on ne fait pas ce qu'il faut. Il faut qu'on rentre sur le bon chemin. » Et donc, il mène le peuple sur le bon chemin et il y a un réveil et c'est génial. Il y a la présence de Dieu, il y a les choses qui se passent, il y a des victoires, etc. Mais malheureusement, ces occasions sont assez rares. Donc, ces prophètes, ils avaient des messages. Et un des messages clés qu'ils prophétisaient souvent, c'est « Si vous ne changez pas, il y aura de la destruction. Il y aura un souci. Vous allez être vaincus. Vous allez être dispersés. Vous allez perdre votre pays. » Et en fait, on voit très bien qu'ils ont parlé vrai, parce que c'est exactement ce qui se passe. D'abord avec le royaume du Nord, et puis à peu près 130 ans plus tard, le royaume du Sud. Et pourtant, l'avertissement était là. Et parmi ces prophètes, il y a trois qui nous intéressent particulièrement aujourd'hui. Ils sont plus ou moins des contemporains, donc ils parlaient plus ou moins en même temps. Mais ils ne parlaient pas forcément au même peuple. Donc il y a Amos qui nous intéresse aujourd'hui. Et lui, c'était plutôt un messager pour le royaume du Nord. Et puis il y a Ésaïe. Tout le monde a entendu parler d'Ésaïe. Le livre, je disais que la plupart des livres sont courts. Ésaïe, c'est pas court. Il faut un peu de temps pour lire Ésaïe. Mais Ésaïe, il parlait plutôt au royaume du Sud. Et puis, il y avait aussi Michée, qui parlait plutôt au royaume du Sud. Et ces trois prophètes, ils ont des messages qui ne sont pas toujours très faciles à comprendre. Parfois, si vous ouvrez votre Bible comme ça, vous pouvez tomber sur un passage, vous dites « Ouh, ben, ça veut dire quoi ?» Mais ce que je vais vous dire aujourd'hui, soyez rassurés, ça va être très clair. Très clair. Parce qu'ils sont tous très clairs sur le point qui nous concerne. Et ça, c'est les limites et les conditions d'un sacrifice apporté à Dieu. Et là, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, on est à ce moment-là, donc autour de 730 avant Jésus-Christ, et tout ne va pas bien dans la relation entre Dieu et son peuple. Ça ne va pas bien. Regardez le message de Dieu pour Israël apporté à Amos. Ok, Louis ? Donc, Amos 5, 21-23. C'est Dieu qui parle. « Je déteste vos fêtes. Je les ai en dégoût. » C'est assez clair, je pense. Lorsque Dieu parle des fêtes, il parle des moments où on fêtait Dieu. Ce n'était pas juste « on fait la fête », c'était les fêtes sacrées. Okay? Donc, il ne dit pas « moi, je n'aime pas les fêtes ». Non, c'est les fêtes pour lui. Pour lui. Et Dieu, il dit « je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos assemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas, je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez donc, ça c'est pour les musiciens, éloignez donc de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit qui font vos luttes. C'est comme si on se retourne comme ça. Paul, arrête. Fred, arrête. J'en peux plus. C'est assez direct. Oui, vous êtes d'accord? Donc, et ça, c'est Dieu qui parle à son peuple pendant un culte, ou pendant les périodes de culte. Et donc ça, c'est Amos qui parle au royaume du Nord. Et puis, il y a Ésaïe qui parle au royaume du Sud. Il dit plus ou moins la même chose à Juda. Donc, Ésaïe 1, 11 à 15. « Que peuvent bien me faire vos nombreux sacrifices, dit l'Éternel, car je suis rassasié des holocaustes et de béliers et de la graisse de bêtes à l'engrais. Je ne prends pas plaisir aux sacrifices de taureaux, d'agneaux comme des boucs. Quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mon parvis ?» Vous êtes là ? Pourquoi ? Qui vous a demandé de venir ? C'est Dieu qui parle à son peuple. Moi, je suis choquée quand je lis ça. On dit, oui, on vient dans la présence de Dieu et Dieu nous accueille. Et ici, Dieu est libre. Qui vous a demandé de venir ? Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lunes, aux sabbats, aux assemblées, je ne veux plus de ces rassemblements de culte de gens qui font le mal. Oui, vos nouvelles lunes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Ils sont un fardeau. Nos cultes, ben, pas nos cultes, j'espère. Les cultes, à l'époque, étaient un fardeau pour Dieu. Je suis lasse de les supporter. Je ne les supporte pas. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre de prières, je ne vous entends pas, car vos mains sont pleines de sang. Alors, vous avez constaté, j'espère, que Dieu n'est pas content. Oui, ce n'est pas très caché. Ce n'est pas Dieu le diplomate qui parle là, c'est Dieu qui parle vrai. Donc, on est loin de la communion avec Dieu. Pourtant, ce que j'ai prêché la semaine dernière, c'était que le sacrifice, ça apporte la communion. Est-ce que ça veut dire que j'ai changé d'avis ? Non. Ici, on est loin de la communion. Et il y a Dieu qui dit, ce n'est pas un parfum pour moi, c'est une puanteur ce que vous faites pour moi. C'est aussi fort que ça, ce que Dieu dit. Et pourtant, l'effort ne manquait pas. Il y a des cultes, il y a des rassemblements, il y a des chants, il y a des offrandes, il y a de nombreux sacrifices. Et qu'est-ce que Dieu dit ? Il dit, je bloque les oreilles, je cache les yeux et je bouche le nez. Parce que je n'aime pas. Ok ? Mais qu'est-ce qui a provoqué cette réaction chez Dieu ? Parce que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui. Parce que ça ne sert strictement à rien de faire ce qu'on a fait ce matin. Si finalement, Dieu dit « La 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 la, je vous écoute pas ». Si on va chanter « Gloria, Gloria », pour vous, moi j'ai envie que Dieu m'entende. Moi j'ai envie que Dieu me réponde. Ouais. Et donc, que veut Dieu ? S'il déteste ce culte que pourtant lui, il a ordonné, c'est Dieu qui l'avait ordonné, donc il n'est pas en train de dire « Vous ne faites pas ce culte ». De la bonne manière, c'est pas ça qui pose problème. Qu'est-ce qu'il veut ? Alors, le prophète Michée, il pose de manière assez ironique la même question dans un message au peuple. Et lui, encore, il parle. Son message ici, en fait, c'est pour le nord et c'est pour le sud. Il parle aux deux. Et donc, Michée 6, versets 6 et 7. Avec quoi donc pourrais-je me présenter à l'Éternel ? Avec quoi m'inclinerai-je devant le Dieu très haut ? Irai-je devant lui avec des holocaustes, avec des veaux âgés d'un an ? L'Éternel voudra-t-il des milliers de béliers, 10 000 torrents d'huile ? Devrais-je sacrifier mon enfant premier-né pour payer pour mon crime, le fils cher de ma chair pour expier ma faute ? Au cas, j'aimerais juste dire, au cas où vous avez un doute là, la réponse est non. D'accord ? Juste pour que ça soit très très clair. Mais au moment où il donne la loi à son peuple pour la première fois, c'est avec Moïse, donc on recule encore 700 ans. Dieu dit à son peuple, c'est en Deutéronome 18, versets 9 à 12. Donc Écoutez bien, Dieu, il est très clair. Lorsque vous serez entrés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, n'allez pas imiter les pratiques abominables des peuples qui habitent actuellement. Qu'on ne trouve chez vous personne qui immole son fils ou sa fille par le feu. Personne qui pratique la divination, qui recherche les présages, consulte les augures ou s'adonne à la magie. Personne qui jette des sorts, consulte des spirites et les devins ou interroge les morts. Car le Seigneur a en abomination ceux qui se livrent à de telles pratiques. Donc Dieu, il est clair, je pense. Non, on ne sacrifie pas les enfants. D'accord ? Donc ne soyez pas tentés. Okay? On ne sacrifie pas les enfants. Ce n'est pas ambigu. Et pourtant, il y avait au moins deux rois parmi les rois de Juda et Israël, et peut-être plus, on ne sait pas, mais il y avait au moins deux, où c'est cité, qu'ils ont sacrifié leurs enfants. Au moins. Et non seulement eux, ils ont fait, mais ils ont traîné le peuple dans les mêmes pratiques. Parce que les rois avaient une grande influence sur la manière de faire l'adoration, etc. Est-ce qu'il faut 10 000 torrents d'huile? C'est la question que Michel pose. Alors, il faut que ça coûte 10 000 torrents d'huile. Non, la Bible est très claire. Encore, Exode 29 dit qu'il faut 1,5 litre. 1,5 litre d'huile, c'est ça qu'il faut pour le sacrifice. On n'a pas besoin de 10 000 torrents d'huile. Ça, c'est la bonne quantité. Donc, ces sacrifices sont coûteux, mais ils ne sont pas les sacrifices que Dieu avait demandés. Et c'est ça qui change. On peut faire ce qui coûte, ce qui est terriblement coûteux parfois, mais si ce n'est pas ça que Dieu a demandé, non seulement ça ne sert à rien, mais Dieu, il va même pas regarder. Il va dire non, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Donc, nous ne pouvons pas apporter un soi-disant sacrifice à Dieu si la Bible est claire que ce que nous apportons, c'est interdit. Ou que ce n'est pas ça que Dieu cherche. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Vous ne pouvez pas falsifier votre déclaration d'impôt pour avoir plus d'argent sur le compte bancaire pour mettre dans l'offrande. Arnaud, on va prier pour toi après. OK? Donc, ça, c'est un exemple très, très clair. Il y a d'autres domaines où parfois on ne se rend pas compte forcément qu'on est en train de le faire. Mais on ne peut pas faire quelque chose comme la fraude qui est interdit dans la Bible, très clairement, pour dire non, mais ça va, mais c'est pour Dieu. OK? La fraude, c'est interdit. Et vous ne pouvez pas apporter un sacrifice quelconque pour essayer de compenser une manière d'agir que vous savez très bien être contre la volonté de Dieu. Ce n'est pas en chantant deux fois plus fort le chant que le fait qu'il y a du péché non traité, non réglé dans votre vie, ce n'est pas que Dieu arrête de le voir parce que tu as chanté deux fois ce chant-là ou tu as chanté encore plus fort que d'habitude. Parce qu'on ne peut pas compenser le péché comme ça. On ne peut pas compenser le péché. Et ce qui est important, c'est que, et j'aimerais juste revenir un instant sur ce qui a été partagé pendant le culte là. Alice, à un moment donné, elle a dit qu'il y a du pardon pour ceux, qu'ils étaient quelques personnes dans la salle qui avaient besoin de demander pardon à Dieu et que le pardon était là. Paul a dit encore, avant de prendre la Sainte Cène, c'est la décision de se retourner. Ce n'est pas là où tu es, c'est vers où tu vas. Parce que Dieu te rencontre n'importe où. Mais donc, ce n'est pas parce que tu as péché que ça devient épouvantable à Dieu. C'est tu as péché et tu n'as aucune intention de changer ça. Ça, c'est la chose qui bloque Dieu. Parce que tu ne peux pas compenser ton péché juste en donnant encore un truc. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, nous avons lu en Ésaïe, à un moment donné, Dieu ne veut pas le culte de quelqu'un qui fait consciemment le mal et qui n'a aucune intention de changer. Ésaïe dit, je déteste, ne faites plus de culte vous, qui, les gens qui faites du mal. Je ne veux pas. Okay? Donc, qu'est-ce que Dieu veut, alors, si ce n'est pas encore plus de choses sacrifiées? Et Michée, il nous donne la réponse. Il nous donne la réponse dans le prochain verset. Donc, Michée 6, verset 8. Il dit, on te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. On te l'a enseigné. C'est que tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté et qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. En fonction de la, on va voir un peu la différence entre les versions dans un instant, mais ça dit plus ou moins la même chose. On te l'a enseigné, dit Michée. C'est-à-dire, ce n'est pas nouveau. Tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Et Michée, il a, mais pourquoi est-ce que je suis obligée de le répéter encore une fois? Tu le sais déjà. On te l'a enseigné. On te l'a enseigné. Effectivement, ce principe avait été enseigné au peuple tout au début de leur alliance. Donc, on retourne en Deutéronome. Et c'est au moment où Moïse il a construit l'arche de l'Alliance et la présence de Dieu s'est installée de manière tangible parmi le peuple. Et Moïse, il a dit en Deutéronome 10, 12, 19, il dit « Maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ?» Donc, on a les mêmes mots. Voilà ce que Dieu attend de toi. Okay? Donc, ça va être clair. Simplement, donc c'est même pas compliqué, simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant, en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en observant les commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Les lois de Dieu, c'est pour ton bien. Bien, c'est pas parce que Dieu a envie d'imposer tout un tas de trucs qui vont être lourds. Jésus dit mon joug est léger. Et donc Dieu, il est en train de dire, je vous demande simplement de faire ces choses-là parce que c'est pour ton bien. Et il dit verset 16, opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur. Et ne vous rebellez plus contre l'Éternel, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des Seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme, qui ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve, et il témoigne de son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. Vous savez ce que c'est, être étranger. Donc maintenant, allez, vous allez montrer un peu d'amour, un peu de miséricorde, un peu de gentillesse. OK? Donc les sacrifices qui étaient, cette puanteur, un bruit horrible pour Dieu, n'avaient pas un problème de forme, mais un problème de contexte. Okay? C'est le contexte qui est le problème. Le sacrifice de louange n'était pas apporté dans un contexte où il était recevable. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Si vous lisez les livres d'Amos et de Michée, alors les deux livres sont relativement courts, c'est quelque chose qui peut se faire relativement rapidement. Vous verrez l'image de deux populations. Et ces deux populations sont corrompues. Et je vous donne quelques éléments qu'on peut prendre de ce que Amos et Michée disent, qui expliquent un peu, qui donnent un peu l'image de ces deux sociétés. On abuse des faibles. On fraude si on peut. On cherche à profiter des difficultés des autres. On crée même des difficultés pour les autres afin d'en profiter. On paye et on accepte les pots de vin pour faire avancer les affaires. On joue aux favoris. Les relations dans le cercle familial sont pourries par les querelles parce qu'il n'y a personne qui a du respect pour l'autre dans la famille. Les relations sexuelles existent en dehors du cadre établi par Dieu. Ceux qui ont de l'argent l'amassent et laissent souffrir ceux qui n'ont rien. Et pour couronner tout ça, on apporte les sacrifices non seulement au seul vrai Dieu, mais aussi à des idoles, à des dieux païens. On part à toute éventualité. C'est, allez, un petit sacrifice par là, un petit sacrifice par là, comme ça on peut bien équilibrer les religions, juste pour... Et donc, je ne sais pas pour vous, mais moi je lis cette liste-là, je regarde autour de moi. Est-ce qu'on voit les gens qui amassent de l'argent et qui laissent souffrir ceux qui n'ont rien? Oui. Est-ce qu'on voit les relations dans le cercle familial qui sont pourries par le manque de respect et d'amour? Oui. Est-ce qu'on voit la corruption dans le monde des affaires? Oui. Là, on est bien 700 ans avant Jésus-Christ, mais franchement, les choses n'ont pas changé tant que ça. Les choses n'ont pas changé tant que ça. Et voici ce que Michel est en train de dire à cette population-là. Arrêtez un instant de parler du sacrifice de louange, parce que voilà les trois choses que Dieu attend de vous. Et il faut que ces trois choses soient réglées pour que le sacrifice de louange devienne recevable. OK? Première chose, et on va juste voir ces trois éléments qui sont mentionnés dans le verset 8. Première chose, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Conduis-toi avec droiture. Pratique la justice. Ça, c'est la première chose. Alors, Amos, il a le même message. Il dit, juste après ce que je viens de vous lire d'Amos, que la justice coule comme un torrent puissant. Okay? Arrête le bruit horrible de vos instruments, mais que la justice coule. C'est ça que je veux voir. Esaïe dit la même chose après ce qu'on a... On a lu, cessez de faire le mal, efforcez-vous de pratiquer le bien, agir avec droiture, assistez l'opprimé, défendez le droit de l'orphelin, plaidez la cause de la veuve. Ça, c'est ce que ces deux prophètes ont dit après la condamnation très forte de ces moments de culte. Alors, ça veut dire quoi pour nous aujourd'hui? On agit avec intégrité. Ça, c'est vraiment la base. On reste honnête dans les affaires de l'argent, de commerce, même si on paye plus d'impôts, même si on perd une vente. Je sais qu'en parlant à plusieurs personnes ici qui sont commerciales, que c'est un métier qui est très, très dur. Et souvent, il y a de la pression de la boîte pour tordre un peu la vérité pour avoir la vente. Ça, c'est quelque chose, en tant que chrétien, on n'a pas le choix, on est obligé de résister. Parce que c'est ce que Dieu attend de nous. La veuve et l'orphelin représentaient les personnes les plus vulnérables dans la société à l'époque. Parce qu'ils étaient sans défense, il n'y avait pas de défenseur. C'était le mari, le père qui protégeait la famille. Son père, son mari... Souvent, il n'y avait pas de revenus. Il n'y avait pas quelqu'un pour protéger les intérêts de la famille. Et donc, c'était les vulnérables, à nous, de prendre la défense de ceux qui sont sans défense. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on devienne tous avocats. Ce n'est pas ça. Il y a certains qui sont appelés à le faire, mais ce n'est pas pour tout le monde. Il y a de multiples contextes pour être le défenseur de celui qui est sans défense. Et peu importe l'âge aussi. Je vous donne un exemple très, très concret. On a les ados dans la salle? Oui. Les ados, je vous parle. D'accord? Oh, tout d'un coup, ça. À l'âge de 11 ans, j'ai vécu une année d'enfer au collège. Avec les brimades, avec l'harcèlement, avec... Voilà, tout ce qui va avec. C'était terrible. Franchement, j'avais envie de mourir. Heureusement, Dieu était avec moi. Mais à ce moment-là, ce dont j'avais besoin, c'était un défenseur. J'avais besoin de quelqu'un parmi mes pères, simplement de se mettre à côté de moi, de manger avec moi, de me choisir pour l'équipe de sport, de... Voilà, toutes les choses qui peut faire en sorte qu'on se sent inclus dans une situation. Et pendant cette année-là, il n'y avait personne. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année d'après, j'avais changé d'école, ça allait beaucoup mieux. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher les personnes qui étaient en train de vivre la même chose que moi j'avais vécue. Et pour moi, c'est un peu comme Dieu lorsqu'il parle aux étrangers. Il dit, soyez gentils aux étrangers parce que vous avez été étrangers. Vous savez, quand vous avez vécu ce genre de choses-là, avec l'harcèlement, avec les soucis comme ça, vous êtes très, très sensible quand vous voyez ça en train de se passer à quelqu'un d'autre. Et donc, pendant toutes mes années, la suite de collège, de lycée, même à la fac, j'avais toujours un œil sur ce qui était un peu rejeté ou pire. Parfois, c'était pire. Et je prenais sur moi la responsabilité d'être la défenseur de ces personnes-là. Et ça prenait des formes différentes en fonction de où j'étais. Parfois, c'était simplement d'inviter quelqu'un. Parfois, c'était simplement de choisir de me mettre à côté de quelqu'un dans la salle de classe. Vous savez, il n'y a rien de plus solitaire d'être dans une salle de classe et il y a tout le monde qui s'installe au plus loin possible. OK? Donc, ça, c'est un exemple très banal. Mais j'ai aussi travaillé dans les entreprises où les gens ont subi des pressions, les harcèlements. À un moment donné, j'étais chef d'équipe. Et quand je voyais ça, première chose que je faisais, je convoquais la personne qui faisait ça dans mon bureau pour dire « ça ne va pas, ça change maintenant, sinon on entre en conseil de discipline. » Parce qu'on a une responsabilité devant Dieu pour être ceux qui parlent pour la justice. Et il y a des personnes qui ont un appel dans un domaine très particulier. Il y a certaines personnes qui sont appelées à être un peu avocats pour ceux qui subissent des discriminations. Il y a d'autres qui sont vraiment appelés pour être un protecteur pour personnes dans d'autres domaines de vulnérabilité. Mais nous ne pouvons pas laisser passer les injustices quotidiennes. Nous ne pouvons pas le faire. Par exemple, le racisme. Il y a les gens qui jettent des commentaires comme ça. À nous de dire non. À nous de ne pas entrer dedans. À nous d'apporter une correction. Et vous savez, parfois, ça va nous coûter. Et ça peut nous coûter en popularité ou ça peut nous coûter en fierté. Ça peut apporter d'autres désagréments. Mais on a une responsabilité d'être les personnes qui parlent pour la justice. OK? Dieu nous dit que sans ce genre de sacrifice, on peut chanter tout ce qu'on veut, mais si nous ne sommes pas les défenseurs de ceux qui subissent l'injustice, ils n'entendent pas nos chants. OK? Ça, c'est quelque chose de très important. Pratiquer la justice, être droit, être intègre, ça peut nous coûter, mais c'est un sacrifice agréable. Et non seulement agréable, c'est un sacrifice essentiel pour Dieu dans nos vies. Deuxième chose, prends plaisir à témoigner de la bonté. Aime la miséricorde, c'est marqué dans la version de Louis II. Donc, prends plaisir, aimez la miséricorde, témoigner de la bonté. Notez bien, Dieu ne dit pas « soyez miséricordieux ». Il dit « aime la miséricorde ». Et ce qui change là, c'est l'attitude. C'est pas « oh, je vais faire du bien parce que je dois ». Ouais, je vois que Fred, il est très triste, donc je vais me forcer d'aller dire quelque chose d'encourageant parce que comme ça, ça ira mieux pour lui. Il a toujours l'air un peu déprimé derrière. Comme ça. Mais non, c'est aimer faire ça. Prends plaisir. C'est dans ma tête, moi, je vais aller faire du bien à Fred. Je vais l'encourager. C'est attitude. C'est notre manière d'aborder la miséricorde et de notre témoignage de la bonté. Et il y a du plaisir à y trouver. Ce n'est pas un devoir chrétien. Je vais être miséricordieuse. C'est non, je vais prendre plaisir à faire ça. Je vais chercher mon plaisir et je vais chercher le plaisir de Dieu en le faisant. Et il y a un mot, allez, on va faire un peu de hébreu. Ça vous dit, faire un peu de hébreu? Il y a des linguistes dans la salle. Le mot pour la bonté, pour la miséricorde, c'est un mot hébreu qui est chesed. Chesed. J'espère que vous avez remarqué la jolie prononciation. Je suis même allée dans un dictionnaire audio pour avoir la bonne prononciation. J'ai fait des efforts pour vous aujourd'hui. Hein. Chesed. Okay. Donc, chesed, c'est un mot qui est très riche en sens. C'est un mot qui, comme pas mal de mots en hébreu d'ailleurs, ça a beaucoup de nuances, beaucoup de parfums différents dedans. Ça parle d'un amour fidèle. Ça parle de la gentillesse, ça parle de l'investissement en quelqu'un, ça parle d'une bonté inattendue, inespérée, non méritée. Et c'est pour ça que c'est le mot souvent qui est utilisé dans la Bible lorsque Dieu parle de sa bonté envers nous. C'est son chesed envers nous. C'est inattendu, c'est sûrement non mérité, mais ça, et c'est fidèle, ça dure, c'est un investissement en nous, Dieu s'investit en nous. C'est la grâce, c'est la miséricorde. Et c'est le mot utilisé en psaume 23, lorsqu'on lit que l'amour, la bonté, la grâce de Dieu, le chesed de Dieu, t'accompagnera tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, il y a le chesed à côté de toi. Okay? Donc voilà, on regarde à droite, chesed. À gauche, chesed. Et Dieu nous dit, tu ne seras jamais à court de chesed à montrer parce que ça t'accompagne. Dans la personne de Jésus, dans ce que Jésus a fait pour toi, tu as toujours une abondance de chesed autour de toi. Et c'est ça que tu vas témoigner, c'est ça que tu vas montrer. Tu vas montrer aux autres ce que moi je t'ai montré. Okay? Ce chesed, tu vas prendre un peu et tu vas donner ça. Tu vas prendre plaisir à chesseder les autres. Okay? Là, j'invente. Hein. Ça, ce n'est pas du hébreu. Ce n'est même pas du français. Ce n'est même pas de l'anglais. Donc, et c'est basé sur ce que Jésus a fait pour nous. Et vous savez, en Luc 6, 36, encore une fois, on ne va pas l'afficher, mais Jésus dit, votre Père est plein de bonté. Soyez donc bon pour lui. Et le mot bon et bonté là, c'est la version grecque de ce mot chesed. Okay? C'est soyez comme votre père. C'est ça que Dieu nous demande de faire. C'est tu as l'exemple, ça t'accompagne. Alors maintenant, va le faire. Va chesseder tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque Jésus parle de ce chesed de Dieu, vous voulez le grec? Oiktirmon. Ouais, chesed, c'est plus facile. Et lorsque Jésus est en train de parler de ça, en fait, c'est en plein milieu d'un discours où il parle aussi du pardon, de la générosité, d'aimer, de faire du bien, même aux gens qui ne nous aiment pas. Ça fait partie du discours « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui... » vous persécutez, etc. Et dans le même discours, Jésus, il reconnaît que ce n'est pas facile de le faire. Ce n'est pas facile de le faire du bien aux gens qui ne nous aiment pas. C'est facile quand c'est les gens qu'on aime, quand c'est la famille, quand c'est les amis. Quand ce n'est pas de la famille ou les amis, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est le sacrifice. Lorsqu'on parle d'apporter le sacrifice, n'oubliez pas, je vous ai dit la semaine dernière, si ça ne coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. On est en train de le faire et c'est bien, mais ce n'est pas un sacrifice. Et Dieu nous demande d'apporter le sacrifice. C'est le sacrifice qui est complémentaire à notre sacrifice de louange. Donc ce n'est pas simplement quand c'est facile. Ce n'est pas simplement envers les gens qu'on aime. C'est, voilà, partout et surtout ceux qu'on n'aime pas. J'entends pas beaucoup de « Amen » là. Oui, gloire à Dieu, je vais faire du bien à quelqu'un qui ne m'aime pas. Mais voilà, ça c'est la Bible. Ça c'est la Bible. Donc, j'ai simplement une question pour vous alors. C'était quand la dernière fois que vous avez pris plaisir à témoigner de la bonté, ça peut être par un geste, par une parole, par un don, à quelqu'un que vous connaissez? Je ne vous demande pas de lever la main, vous réfléchissez un instant. Ça va? Oui? Alors maintenant, c'était quand la dernière fois que vous avez pris du plaisir à témoigner de la bonté à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Il faut qu'on cherche un peu plus loin. Il y a les gens qui n'osent pas me regarder. Troisième question. C'était quand la dernière fois que vous avez pris du plaisir à témoigner de la bonté envers quelqu'un qui ne t'aime pas? Soyons honnêtes, il y a des choses dedans où c'est plus facile, où c'est plus difficile. Alors, je ne suis pas dans la condamnation, je vous assure. Je sais que c'est difficile, je vis la même vie que vous. Hein? Et ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Donc, pour nous tous, on a besoin de chercher les occasions. Ce n'est pas quelque chose de passif. On cherche les occasions pour témoigner de la bonté, pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous, que ce soit les gens qu'on aime, les gens qu'on connaît, les gens qu'on n'aime pas, les gens qu'on ne connaît pas, les gens qui ne nous aiment pas. Il n'y a pas de distinction. Mais si on cherche les occasions de le faire, ça va être agréable à Dieu. Agréable à Dieu. Et si ça nous coûte en temps, en argent, en désagrément en général, quelque part, tant mieux. Parce qu'au moins, vous savez que c'est un sacrifice. Quand c'est facile, c'est bien, je suis pas en train de dire que tout doit nous coûter. Mais c'est, si on n'a pas l'expérience dans nos vies d'avoir un coût, parfois, en faisant du bien, ça veut dire qu'on n'est pas en train de vivre comme Dieu nous demande de vivre. Donc, il faut qu'on s'examine. Il faut qu'on se pose la question. Parce que c'est facile quand c'est facile. Mais Dieu nous demande un sacrifice. OK? Donc, voilà, je vous laisse réfléchir. Donc, c'est une habitude à cultiver, en tout cas. Pas parce qu'on doit, mais parce qu'il y a du plaisir à apporter ce genre de sacrifice à Dieu. Et puis, la troisième chose, et ça très rapidement, troisième chose que Dieu attend de nous, ce n'est pas dirigé vers notre communauté, ce n'est pas dirigé vers la société en général, c'est quelque chose orienté plutôt vers Dieu. Donc, troisième chose. En fait, Louis, est-ce que tu peux remettre Michée 6, 8? Juste pour qu'on puisse voir. Donc, on a « Tu te conduises avec droiture, que tu prennes plaisir à témoigner de la bonté. » Et puis, la troisième chose, « Qu'avec vigilance, tu vives pour ton Dieu. Dans la version Louis II, c'est écrit « Marchez avec moi humblement. » Okay. Ça semble assez différent, mais ce n'est pas si différent que ça. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas le mot « humilité » qui est utilisé traditionnellement, en fait. En fait, c'est une prise de conscience de ta position. Parfois, lorsqu'on pense à être humble, c'est « ah oui, je suis humble », et vigilance, ça entre où dans cette question-là? Mais c'est simplement une prise de conscience de qui tu es et qui est Dieu. Okay? Si je suis humble, c'est parce que je sais qui est Dieu et je sais qui je suis et je sais qu'il est plus grand que moi. Et si on marche avec vigilance, c'est parce qu'on sait qui est Dieu. Dieu, il est grand. Et moi, il faut que je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Vivez pour moi avec vigilance. Marchez avec moi humblement. Ça se traduit aussi prudemment. Marchez prudemment devant Dieu. Où est-ce que vous mettez vos pieds? Comment est-ce que vous mettez vos pieds? C'est en partie ce que nous comprenons par la crainte de Dieu. Quand nous vivons avec vigilance pour Dieu, ça veut dire que nous faisons attention. C'est qu'est-ce que Dieu va penser de ce que je suis en train de faire? Ça, c'est la crainte de Dieu, finalement, ou une manifestation de la crainte de Dieu. Ça nous rappelle ce que tu fais là. Est-ce que c'est agréable à Dieu? Est-ce que c'est agréable? Et en fait, dans tout ce verset-là, ce que Miché est en train de dire au peuple, c'est n'oublie pas, dit Dieu à son peuple, que je te vois aussi bien dans le temple qu'en dehors du temple. Ça, c'est la base de ce que Dieu est en train de communiquer à son peuple. Je te vois aussi bien dans le temple qu'en dehors du temple. Et quand tu apportes ton sacrifice de louange, j'ai aussi sous mon regard ta vie quotidienne. Et avec ton sacrifice de louange, que je veux, soyons clairs, je recherche aussi le sacrifice de justice et le sacrifice de bienfaisance. Et ce n'est pas que l'un est plus important que l'autre. Et parfois, surtout, je pense, dans notre culture, on a tendance à vraiment dire, il y a ça, et puis il y a ça. Et en fait, Dieu dit, non, il y a ça. Okay? On a tendance à essayer de... Non, ça, c'est la justice sociale. Est-ce que Dieu veut que je sois impliquée dans la justice sociale? Est-ce que je dois me donner à l'adoration? Dieu dit, mais pourquoi tu essayes de séparer les choses? Comme moi, j'ai mis le tout ensemble. C'est ta vie. Ta vie n'est pas segmentée. Ta vie, c'est ta vie. Et quand tu apportes ton sacrifice, il faut penser à ces deux aspects-là. Nous ne choisissons pas entre la louange et la bienfaisance ou la justice en fonction de ce qui nous correspond le mieux. Moi, je n'y dis pas. Moi, je suis dans la louange. Donc, je n'ai pas besoin de faire de la bienfaisance parce que, heureusement, il y a Alice et Pierre qui gèrent la banque alimentaire. Donc, eux, ils s'occupent de la bienfaisance. Ça me libère pour être dans la louange. Non, Dieu dit, si tu n'as pas ce sacrifice de bienfaisance dans ton cœur, je ne veux pas entendre tes chants. Et pareillement, il va dire à Pierre, excusez-moi, je vous prends comme exemple, mais il va dire à Pierre et Alice, c'est bien de gérer l'alimentation pour ceux qui n'en ont pas, mais où sont tes chants? Où est ton adoration? Où est le glorieux qu'on a annoncé? On ne choisit pas. Dieu dit, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et pour devenir pleinement les adorateurs que Dieu recherche, et on a vu ça tout au début de la semaine dernière, nous avons tous deux types de sacrifices à apporter. Et ils sont complémentaires. Et Louis, est-ce que tu peux mettre le dernier verset, s'il te plaît? Donc, j'ai commencé avec ça la semaine dernière. Hébreux 13, 15 et 17, 15, 16, 17. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices pluriels. Les sacrifices. Voilà tout ce que vous voyez là, dans le 15 et le 16, ce sont les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. OK? Donc, nous avons ce package à apporter à Dieu. Dieu, il veut nos sacrifices. Il cherche nos sacrifices. Il cherche notre louange, il cherche notre adoration, il cherche la justice qu'on va mettre en œuvre autour de nous. Il cherche la bienfaisance qui va dire que quelqu'un va mieux manger parce que je suis là, ou quelqu'un va être vêtu parce que je suis là, ou quelqu'un va, je ne sais pas, beaucoup d'autres choses. Quelqu'un va être encouragé parce que je suis là. Il y a de la bienfaisance. Et c'est quelque chose enraciné au fond de nous tous. Et si, ce que j'ai voulu faire ces deux derniers dimanches, c'est simplement nous rappeler ce que Dieu attend de nous. Et ce qui est génial, ça commence avec par Jésus. Si on chante les louanges comme on a fait ce matin, c'est par Jésus. Si je fais du bien autour de moi, c'est par Jésus. Je ne suis pas dans une galère pour le faire de mes propres moyens. C'est parce qu'il y a du chesed qui m'accompagne. Et je vis ce que Dieu a fait pour moi. Je vis ce que Jésus a fait pour moi. Et à cause de cela, je suis en mesure d'apporter les sacrifices que Dieu veut de ma part. Est-ce que je peux vous demander de vous lever un instant? Seigneur, merci. Merci pour le plus grand sacrifice qui est Jésus, qu'on a célébré aujourd'hui avec le pain et le vin. Merci pour ce sacrifice. Et Seigneur, nous voulons être un peuple d'adorateurs, de vrais adorateurs, qui ne sait pas simplement chanter ou pas simplement dire de bonnes choses ou faire de bonnes choses, mais Seigneur, nous voulons être pleinement les adorateurs que tu nous as appelés à devenir. Et Seigneur, nous voulons que nos sacrifices, que ce soit dans la louange, que ce soit dans la bienfaisance, dans la justice, que ces sacrifices soient agréables à toi. Et donc Seigneur, simplement tout ce qu'on veut faire maintenant, c'est de te donner encore une fois nos vies. Pour dire parle-nous, mets ton doigt sur les domaines de notre vie où on a des choses à faire, où on a des choses à développer, où on a des choses à changer, où on a des domaines où on doit se repentir. On a accepté peut-être les injustices autour de nous parce que peut-être on a peur. Mais Seigneur, tu nous appelles dans la sagesse de savoir comment faire. Nous ne voulons pas être les têtes brûlées. Seigneur, nous voulons être des personnes de sagesse qui savent en fonction de la situation comment réagir, comment apporter la paix, comment apporter la consolation, comment apporter l'encouragement, comment apporter les choses physiques, les choses matérielles dont on a tous besoin. Donc Seigneur, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous. Afin que devant les hommes, notre lumière puisse briller. Pour que la gloire te revienne, Seigneur. Aide-nous dans la semaine à venir. Donne-nous conscience de ce qui nous entoure. Donne-nous conscience de ce qu'on peut faire. Et comment on peut être pour changer les choses, pour faire briller la lumière. Et Seigneur, reçois nos vies. Reçois nos vies comme un sacrifice agréable. Amen. Amen.